l'expression de sa vocation précoce. Et puis, avant de passer à l'autre aspect des choses qui va prédominer, il convient de signaler que sa prédication a rencontré un certain succès. Pas un succès certain, mais un certain succès. Puisqu'il il a réussi à faire quelques disciples, à commencer par Baruch, bien sûr, oui, son fidèle secrétaire. Et on pourrait dire que dans un sens, Baruch est devenu plus royaliste que le roi, puisque d'autres ont même osé suggérer à l'occasion que telle ligne de conduite avait été suggérée au prophète par Baruch. Donc, un homme entièrement dévoué à la même cause que Jérémie. Donc, pour dire que Jérémie avait toujours la consolation d'avoir un homme fidèle à ses côtés et qui pouvait même envoyer en première ligne quand la situation devenait trop dangereuse pour lui, comme pour la lecture du rouleau des oracles de Jérémie faite en présence du roi Joachim. Mais Jérémie a eu d'autres succès jusque dans les hautes sphères politiques du royaume de Juda. Et ça passe par un homme en particulier, Shaphan, C-H-A-P-H, accent circonflexe, N, Shaphan, ministre de Josias, à qui Hilkia avait annoncé la découverte du livre de la loi et entre les mains de qui il avait confié ce rouleau précieux. Deux Rois, chapitre 22, verset 3, ainsi que Deux Chroniques, 34, versets 8 et 24. Donc Deux Rois, 22, 3, Deux Chroniques, 34, versets 8 et 24. Et on pourrait dire que le ralliement de Shaphan à la cause de Jérémie aura des conséquences importantes à la génération suivante, puisque trois fils de Shaphan vont défendre Jérémie ou agir dans le même sens que le prophète, donc après la disparition de Josias. À commencer par Ahikam. Est-ce qu'il faut que j'écrive ça au tableau? Oui? Ah bon, mon bien. Donc, vous avez Shaphan. Et puis, c'est quoi, fils? D'abord, Ahikam. Qui empêchera l'arrestation de Jérémie après sa grande prédication contre l'usage qu'on faisait du temple au chapitre 26. Là, il y a une question au verset 24 en particulier. Donc ça, c'est pour un premier fils de Josias qui va rendre un grand service au prophète. Un deuxième fils, Éléazar, recevra de la part de Jérémie une lettre qui devait porter, lire aux déportés qui se trouvaient déjà à Babylone, donc après le départ des 10 000. Donc Jérémie peut lui confier cette mission importante, au savoir quelle conduite il devait adopter au début de cet exil babylonien, chapitre 29, verset 3. Et puis, il y aura un troisième fils que Maria. Qui, avec d'autres, va essayer d'empêcher Jéhoiakim de lacérer le rouleau et de jeter donc des oracles inspirés par Dieu dans le brasero. Chapitre 36, versets 10 à 12 et le verset 25. Donc, voilà, voilà les principales sources d'aide du prophète venu de la famille de Shaphan. Alors, j'ai parlé du succès de Jérémie, mais vous aurez relevé quand même que ces personnages sont autant en rapport avec Josias qu'avec le prophète. C'est une raison de plus pour estimer que Jérémie était bien en phase avec les réformes de Josias, en dépit des thèses de certains critiques. Et à cela, on peut ajouter peut-être un succès personnel du prophète qui reçoit le secours de l'étranger Ebed-Melédèque, que j'ai déjà cité, qui va empêcher quoi ? Vous rappelez comment ? Voilà, c'est ça, nous avons parlé de ça, qui va aider Jérémie à sortir de cette citerne où on voulait qu'il meure lentement dans des conditions vraiment indescriptibles. Chapitre 38, versets 7 à 13. Donc vous remarquez que ces hommes manifestent leur fidélité de façon concrète. Ce n'est pas seulement du bout des lèvres. Donc, ceci dit, il convient d'ajouter que, mais ce sont c'est un succès assez isolé. Pour l'essentiel, Jérémie rencontre beaucoup plus d'opposition que d'appui. Et il le savait dès sa vocation, premier chapitre, verset 19. L'opposition commence dans sa propre famille, ce qui vous fait peut-être penser à l'Évangile, n'est-ce pas ? Oui ? Alors, vous pensez à quel texte ? Oui, ça c'est très juste. Oui, on peut utiliser ce texte-là. J'avais un autre à l'esprit, mais ça c'est parfaitement valable. Comment ? Voilà, je pensais plutôt à ça, mais votre suggestion est parfaitement valable. Donc, Jérémie rencontre des problèmes chez les siens, chapitre 11, verset 21, chapitre 12, verset 6. J'ai déjà mentionné ce fait en passant, en essayant d'expliquer cette réaction négative. Mais il aura encore plus d'opposition dans les instances dirigeantes du royaume. À commencer par le roi Jéhoiakim, fils d'un roi fidèle, donc il est aux antipodes de son père. Son père avait pris le deuil en constatant que le royaume avait oublié les conditions de l'alliance du Sinaï consignées dans le Deutéronome. Alors Jéhoiakim n'a qu'à faire de ce message-là. Chapitre 36. Ensuite, il y a le sacerdoce. Les représentants du peuple auprès de Dieu ont pu assumer un rôle essentiel sous l'ancienne alliance. Ce sacerdoce se joint aux prophètes et au peuple pour réclamer la mort de Jérémie, rien que ça. chapitre 26, verset 8. Après sa deuxième prédication contre le temple, nous avons parlé de ces deux prédications au chapitre 7 et puis au chapitre 26. Ensuite, il y a les prophètes. Alors, les prophètes n'ont pas apprécié le message de Jérémie qui leur paraissait beaucoup trop pessimiste. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de pessimiste dans le message de Jérémie? Il fallait même pas chercher à résister, ça c'est certain, et pas seulement ça. Oui, c'est juste encore. Et allons plus loin. C'était un jugement qui allait durer 70 ans. Donc, en d'autres termes, les témoins vivants ne verraient pas la fin, ne verraient pas le terme de l'épreuve, sauf peut-être quelques jeunes. Alors que pour les prophètes, nous avons dit quelle serait la durée de l'exil à leurs yeux. 2 ans. Et tout serait fini, tout rentrerait dans l'ordre. Chapitre 27, 28. Alors, il y a une question intéressante ici. Est-ce que ces faux prophètes croyaient sincèrement à ce message-là, alors qu'il n'avait pas de commission de la part de Dieu, comme Jérémie? Est-ce qu'ils croyaient à leurs propres paroles? Exactement, oui. On connaît le pouvoir de fabulation des enfants, mais les adultes sont parfaitement capables de faire la même chose. Vous répétez à vous-même. Et ce que vous savez être faux au départ, vous le dites assez souvent, vous finissez par y croire vous-même. On est que ce sont des hommes qui se leurrent eux-mêmes. Et finalement, il y a le peuple lui-même qui voit Jérémie comme un misanthrope, un homme toujours en train de pleurer, de se plaindre, etc. Et en plus, à la solde de l'ennemi. Donc, l'objet de notre étude numéro 4. Et il y a tant d'opposition que, alors point suivant, je paie toujours dans sa biographie, Jérémie est un prophète voué à la souffrance. Mais sans jamais fléchir. D'après le membre de sa vocation, c'est Dieu qui avait promis de le fortifier et Dieu veillera sur lui jusqu'au bout. Et puisqu'il a ce réconfort puissant de la part de Dieu, il peut faire face d'abord aux médisances. Chapitre 12, verset 6. Car tes frères, eux-mêmes aussi, et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes aussi à pleine voix contre toi. Ne les crois pas quand ils auront de bonnes paroles pour toi. Donc, on dit peut-être ce qu'il fallait en sa présence, mais on le démolit en son absence. Vous savez à quel point ces pratiques sont courantes et destructrices. Alors donc, il y a les médisances, il y a les complots. Chapitre 18, versets 18 à 23. Ensuite, nous passerons au coup. Alors, Jérémie a reçu le premier coup sur l'ordre de qui? Voilà, c'est ça. Qui est-ce qui a dit? Ah bon, d'accord. Très bien. référence. Ah oui, ça c'est juste, oui. Mais où dans le... Il y a 52 chapitres. Hein. Non, c'est au chapitre 20. Donc au début du chapitre 20, avec le sacrificateur donne l'ordre de frapper Jérémie et puis de le mettre au pilori. Vous savez ce que ça veut dire? C'est de la honte. Hein. Et puis, donc, il sera humilié par le haut sacerdoce. Et ce sera bon, d'abord le pilori au chapitre 20, et puis la cour de garde au chapitre 38. Donc, Jérémie sera prisonnier au milieu d'une ville assiégée. Difficile de s'imaginer une situation plus difficile ou à la moindre liberté. Et il est condamné à mort par le biais de cette citerne et délivré in extremis au chapitre 38. Donc on pourrait s'attarder assez longuement sur les souffrances du prophète, mais je ne pense pas que ce soit la peine. Ça se dégage très bien de première lecture du livre. Mais je ne peux pas terminer cette biographie sans mettre en valeur sa fin de carrière atypique. Remarquez que les souffrances du prophète prennent fin, du moins en apparence, quand Jérusalem tombe. Et quand les Babyloniens, bon, moi, le rendent enfin libre de choisir ce qu'il veut. Donc, la captivité d'Israël signifie la liberté pour Jérémie. Libre de rester chez lui, libre de partir à Babylone. Et il reçoit cette liberté-là des oppresseurs de son peuple. C'est une situation peu courante. Et celui qui va dénoncer la fuite en Égypte après l'assassinat de Gedalia va y terminer ses jours. Donc il veut empêcher ses concitoyens de partir en Égypte, mais il y sera emmené de force et c'est là que sa vie prendra fin. Et dans le mystère le plus opaque. Pour moi, Jérémie fait par conséquence partie de la catégorie des héros de la foi, morts dans l'attente d'un sort meilleur. Et ça vous fait penser à quoi? Oui, Hébreux 11, voilà. J'ose pas demander les versets, hein. Mais vous savez que ça vient tout à la fin du chapitre, après toutes les délivrances par la foi, et ceux qui n'ont pas été délivrés parce qu'ils avaient la foi, parce qu'ils attendaient une solution dans l'au-delà. Oui? Ah, vous levez la main ou? Ah bon, bien. Alors, chapitre 36 à 40 d'Hébreux 11. Donc, si je peux résumer ces biographies de Jérémie, c'est que le livre est rempli de la vie du prophète. Et c'est assez différent d'autres livres prophétiques. Ézéchiel apparaît bien dans le livre qui porte son nom, mais il n'occupe pas le devant de la scène au même point que Jérémie. Et puis, dans le cas de certains prophètes, on dit couramment que peu importe que nous soyons renseignés sur leur vie ou non, ça n'influe pas sur notre compréhension du livre. C'est le cas de Nahum ou de Sophonie, par exemple. Donc nous avons énormément de repères biographiques, mais il faut souligner que les repères que le texte nous fournit ne constituent pas une simple documentation. Récemment, je me suis penché sur la vie de Georges de la Tour. Il y a des Lorrains qui doivent connaître Georges de la Tour, n'est-ce pas? Et on a fait beaucoup de recherches sur un homme qui avait sombré dans l'oubli, et on a excipé, par exemple, on a retrouvé une centaine de documents permettant de retracer sa vie, mais c'est l'art pour l'art, puisque ce n'a aucune incidence sur l'interprétation de son œuvre. Tel n'est pas le cas chez Jérémie. On pourrait dire que la vie du prophète est intimement liée donc à ces éléments biographiques, autobiographiques, dans la mesure où il fournit les renseignements lui-même, et constitue une clé essentielle à la compréhension de son rôle et de l'interprétation de ses oracles. Donc, dans certains cas, c'est le message qui est mis en avant. Dans le cas de Jérémie, on voit en tout premier lieu l'homme. On peut dire que, dans un sens, les deux choses sont valables. L'essentiel, dit-on couramment, est le message, cela est vrai, mais ce n'est pas un message désincarné. La parole de Dieu touche très directement des hommes et passe par des hommes. Et le livre de Jérémie est là pour nous le rappeler. On pourrait dire que certaines facettes de ces renseignements biographiques ou autobiographiques fournis sont particulièrement éclairantes ou peuvent poser problème. Il y a un certain nombre de problèmes. Alors, nous allons essayer de voir quelques problèmes dans la deuxième partie de cette étude consacrée au caractère du prophète. Donc, c'est le point numéro 2. Alors, si je vous dis caractère de Jérémie, quels sont les traits qui vous viennent spontanément à l'esprit, d'après ce que vous avez lu dans le livre? J'entends des murmures, mais rien de plus. Sensibilité, oui. Courage, oui. 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 Oui, oui. Comment? Oui, certes, oui, je suis tout à fait d'accord. Mais vous n'avez pas utilisé le mot que j'attendais. Mais d'après, qu'est-ce qu'il dit tout d'abord quand il est interpellé par Dieu? Quelle est sa première réaction? Comment? Je ne sais pas. Parler, oui. Voilà, la timidité. Donc, Jérémie est un timide. Chapitre 1, verset 6, « Je ne sais point parler. » Et on a souvent rapproché ce verset-là d'une objection que Moïse avait formulée quand Dieu a voulu le désigner comme son représentant auprès d'Israël et du Pharaon. Qu'est-ce que Moïse a dit? Comment? Voilà, c'est ça, tout à fait. Exode, chapitre 4, verset 10. Je ne suis pas un homme qui ait la parole facile. Alors, Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait comme Moïse a formulé cette objection-là? Voilà, c'est ça, tout à fait. Et le pauvre Moïse devait chercher autre chose. Donc, on pourrait dire que ce trait rapproche Jérémie de Moïse, mais il y a une différence entre les deux hommes. dans la mesure où, on pourrait dire, l'objection de Moïse est le reflet d'un grand échec, qui vient de vivre après ces 40 années passées dans le désert. Il était arrivé à la conclusion qu'il n'était bon à rien. Et il avait tout raté dans le service de Dieu. Et là, qu'il avait tourné en rond dans le désert pendant 40 ans. Alors que ce soit un encouragement, si quelqu'un est tenté par cette pensée-là, Moïse, qui avait échoué lamentablement, il a perdu 40 années et Dieu pouvait encore se servir de lui. Et de quelle manière ? Mais Jérémie n'a pas connu un tel échec. Ça paraît faire partie de son caractère. Et c'est que je pense que ça explique ces versets que vous avez lus, n'est-ce pas, en guise de préparation de l'étude, qui figure donc en tête de la deuxième étude. Ces versets que je serais tenté de qualifier de journal intime de Jérémie. Alors, on pourrait parler longuement de cette question de journaux intimes. Quelles sont les personnes qui tiennent un tel journal? Mais je ne peux pas m'empêcher de penser, pour ma part, ce sont des gens qui ont du mal à confier directement aux autres, donc même à communiquer avec les autres. Bien. On parle couramment de confession à propos de ces textes-là, mais l'ISP, dans l'article de l'ISP consacré à Jérémie, l'auteur préfère le terme « poèmes autobiographiques ». En tout cas, Dieu tient bien compte de la timidité de Jérémie et promet de le fortifier. Est-ce que nous avons le droit de protester aujourd'hui que nous sommes trop timides pour jouer un rôle actif dans le service de Dieu? Oui ou non, notre ami? Non, pourquoi pas? Oui, c'est exactement le texte que j'avais à l'esprit, oui. Mais quoi? Qu'est-ce que Dieu nous a donné à la place de l'esprit de timidité? Force, amour et sagesse, voilà tout ce qu'il faut. Bien. Référence? Oui, j'entends 2 Timothée, c'est juste. Voilà, chapitre 1, verset 7, c'est parfait. Bien. C'est très bien de connaître le texte, c'est encore mieux de le vivre. Oui? Ah ben, c'est ce que fait Jérémie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas en rester là. C'est que Dieu nous permet, nous pouvons être timides de nature, mais Dieu nous permet de dépasser cette timidité. Vous êtes d'accord avec moi? D'accord. Bon, mais vous avez le droit d'être de notre avis. Non, ça veut dire que c'est comme pour beaucoup de choses, on dit couramment, Dieu nous accepte tel que nous sommes. Ce qui est à la fois vrai et faux. C'est vrai au départ, mais quelques années plus tard, il ne faut pas en rester là. Dieu veut nous transformer quand même. On l'oublie souvent. Donc, d'abord, Jérémie est un homme timide. Et vous voyez, c'est un homme timide que Dieu choisit pour l'envoyer en première ligne. Ensuite, c'est un homme incompris. Incompris, pas parce qu'il est maladroit, pas parce qu'il ne sait pas parler, mais parce qu'il est en porte-à-faux avec la société où il vit, de par sa vocation. Donc, il est en porte-à-faux avec son temps. Jelin, dans l'article du dictionnaire du supplément, la dictionnaire biblique, parle pour cette première période, la période de Jérémie allant de 608 à 598, parle du Gethsemane du prophète. Le terme est peut-être un peu fort, mais il est assez éloquent. Donc, il est en porte-à-faux avec son temps et il est en porte-à-faux avec sa société. C'est le provincial qui est arraché du fait de sa vocation à la vie paisible d'une bourgade. Et nous verrons à la troisième étude que son langage trahit son amour pour sa région natale. Jérémie n'était pas fait pour la vie de la capitale. Donc, il est mal armé en plus pour faire face aux intrigues de ses adversaires de la vie d'Ono, et je suis tout à fait d'accord avec lui sur ce point. Ses départs pour Jérusalem étaient mal compris chez les siens. Donc, et ici, c'est pas comme pour la timidité, il n'y avait pas de solution. Jérémie doit accepter de nager à contre-courant. Alors, j'arrive au troisième trait de son caractère, déjà suggéré. C'est un prophète larmoyant. Larmoyant. Et il n'est nulle part question de larmes aussi souvent que dans le livre de Jérémie. Alors, pour les larmes ailleurs, il n'y a pas tellement de textes bibliques. Il y a des textes du Nouveau Testament qui parlent des tribulations, certes, mais il y a quelques psaumes, en particulier le psaume 6. La parole de Dieu met plutôt l'accent sur la joie que sur les larmes, n'est-ce pas? Et puis, je pense que c'est très juste aussi. Mais quelqu'un avait suggéré l'honnêteté comme un trait de Jérémie, ce qui est exact. Mais nous allons voir ce qu'il en est de ses larmes. Il y a des observations assez intéressantes à faire à ce sujet. Donc, Jérémie est connu pour ses jérémiades, des plaintes sans fin, des larmes qui coulent à flots. Chapitre 4, verset 19. Puis, chapitre 9, verset 1. « Oh, si on me donnait au désert un gîte pour voyageurs, j'abandonnerai mon peuple, je m'en éloignerai. » Et voilà, et il voudrait vraiment pleurer toute sa vie. Mais vous savez que c'est un danger parce qu'il y a des gens qui aiment gémir, qui trouvent un grand plaisir. Ah oui, ça existe. Ensuite, au chapitre 10, versets 19 et 20. « Malheur à moi, je suis brisé, ma plaie est douloureuse, etc. » Et au chapitre 23, verset 9. Alors, qu'est-ce que ces larmes démontrent? Quelqu'un l'avait déjà suggéré tout à l'heure, c'est que Dieu a choisi de confier son message un homme sensible. Donc Jérémie n'est pas un dur. C'est un homme très sensible. Et j'en veux pour preuve son attitude avec les oracles qui doit prononcer contre les Moabites. Donc Dieu lui révèle au chapitre 48 qu'il va juger ce peuple voisin d'Israël. Ben, Jérémie pourrait dire, oh ces païens-là, peu importe, hein, mais non. Il pleure sur le sort même des Moabites, chapitre 48, versets 31 et 38, tout en sachant que le jugement divin est amplement justifié. Donc, versets 29 à 30, donc c'est un peuple païen, mais et qui mérite le sort qui l'attend. Ça n'empêche pas Jérémie de ressentir douloureusement le poids du jugement qu'il doit prononcer lui-même. Alors, je voudrais maintenant prendre, et j'ai déjà suggéré que nous ne devons pas en rester là, et que je me rappelle, il y a des années de ça, quand j'étais dans une petite église, chaque dimanche, au moment de la prière libre, et il y avait un frère qui commençait à prier, et on savait ce qui allait se passer, et commençait par dire à Dieu qu'il était vraiment le dernier des pécheurs, un homme méprisable, etc. Et puis ça continuait, et puis finalement on savait qu'il allait fondre en larmes, etc. Dimanche après dimanche, c'était le même scénario. Oui. Si cela était arrivé une fois, si cela était arrivé à des moments où il ne pouvait pas au moins réagir autrement après ce qu'il avait vécu, ce serait valable. Mais continuer à faire ça dimanche après dimanche, non. Telle n'est pas la volonté de Dieu. Dieu veut nous sortir de là. Alors, voyons ce qui se passe chez Jérémie avec ses larmes. Si nous prenons en premier lieu le chapitre 11, verset 18, au chapitre 12, verset 6, on découvre d'abord que Jérémie formule sa plainte, une plainte assez modérée. Après avoir fait la découverte de la duplicité et de la malveillance de son entourage, l'homme est moins pris de court. Et il y a un certain nombre de psaumes qui vont dans le même sens et pour les mêmes motifs. Donc Jérémie découvre que tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil. Ensuite, au chapitre 15, versets 10 à 18, le prophète qui est conscient peut de servir Dieu fidèlement, verset 16, supporte mal le rejet de sa personne, donc sachant qu'il souffre, pas parce qu'il est infidèle, mais parce qu'il est fidèle. Au chapitre 18, remarquez, ce n'est pas le même scénario, parce qu'au chapitre 18, versets 18 à 23, le ton monte et Jérémie va jusqu'à prononcer des anathèmes, versets 21 à 23, contre des adversaires qui font tout pour provoquer sa perte. Donc vous voyez qu'il y a une progression. Dès que le ton se fait de plus en plus douloureux et fort. Et nous arrivons à l'apogée de ce processus au chapitre 20, versets 7 à 18. Et c'est très intéressant si vous voulez regarder ce texte de votre Bible. Malheureusement, je n'ai pas le temps de trop m'attarder là-dessus, mais ça mérite une étude attentive. Vous verrez qu'il y a trois parties de cette plainte. ou d'avec première partie, la première partie va du verset 7 au verset 10, où le prophète qui souffre de sa mission est tenté de jeter l'éponge, verset 9. Ah, je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom. Et vous savez comment ça continue? Et il y a dans mon cœur comme un feu brûlant retenu dans mes os. Jérémie qui souffre se rend compte qu'il ne peut pas agir autrement que d'obéir à Dieu. Et bien brusquement au verset 11, le ton change. Et le prophète, déprimé au verset 7 à 10, place sa confiance en Dieu et est sûr qu'il y aura une issue heureuse après ces épreuves et loue celui qui avait été à l'origine de ses souffrances pour l'avoir choisi comme prophète. Donc versets 11 à 13, le triomphe de la foi de Jérémie. Ah, on pourrait dire que là, ça devrait être la fin, n'est-ce pas? Et regardez, qu'est-ce qui se passe à partir du verset 14. Après le verset 13, chantez à l'Éternel, louez l'Éternel. Et puis, au verset 14, maudit soit le jour où je suis né. Mais il y a quelque chose qui ne colle pas là. Vous ne trouvez pas? Donc il y a une rechute brutale en apparence où il maudit ben, sa naissance et en cela il suit quel devancier? Job, bien sûr. Ah bon? Oui, Élie a fait une crise comparable, c'est juste. Bien. Et ben, il y a un ordre qui ne tient pas debout. Et je ne me rappelle pas quelle version c'était, mais j'ai trouvé une version où on avait inversé l'ordre des versets. On avait changé l'ordre des versets pour terminer par les versets 11 à 13. C'est plus logique, n'est-ce pas? Oui, d'après ben, notre logique à nous, c'est juste. Mais attention, nous sommes en présence d'une autre logique ici, de la logique de la rhétorique sémitique. C'est-à-dire qu'on ne procède pas forcément de l'introduction pour terminer par la conclusion. On place l'essentiel où? Au milieu, voyez. Donc, il ne faut pas perturber l'ordre, c'est tout simplement, vous avez le début et la fin qui expriment le drame du prophète et le centre qui est témoin de son triomphe. Et il se trouve qu'à partir de ce texte-là, il n'y a plus de plainte. Jérémie accepte tout, toutes les souffrances sont bronchées. Donc, il souffre. Il porte vraiment son problème devant Dieu et c'est comme ça qu'il en triomphe. Et puis, mon dernier point ben, de cette deuxième étude, c'est que Jérémie s'est vu confier un ministère qui doit vivre dans sa chair. Il doit montrer dans sa propre vie qu'il n'y a plus d'espoir pour son peuple. Et c'est pour ça que Dieu lui donne un ordre qui était totalement inadmissible pour l'esprit hein, ben du peuple d'Israël. C'était quoi? Voilà, de rester célibataire. C'était incompréhensible pour un Israélite. La bénédiction suprême, c'était quoi? Oui, une grande famille. Plus on avait d'enfants, mieux ça valait. Donc, c'est la grande famille, c'est la bénédiction. Genèse 22, verset 17. Et puis, c'est tout un texte qui figure souvent sur les faire-part de mariage. Voilà, c'est ça, oui. Oui, que vous pouvez citer, certainement. Oui. Oui. Voilà, c'est ça, oui. Oui. Et je mets l'accent sur quel aspect, sur quelle partie de ce psaume ici. Comment? Non, ben avec le nombre de fils, là. Bien. Oui. Ah oui, oui, oui. Ah ben, je pourrais donner. C'est au chapitre 16, versets 1 à 4. Pourquoi est-ce que Jérémie se voit voué au célibat? Parce que le célibat est supérieur au mariage? C'est symbolique. Comment? C'est symbolique. Oui, c'est pour des raisons, encore plus que symbolique, pour des raisons bien pratiques. On peut dire, c'est juste, Claudine, que c'est symbolique dans la mesure où Jérémie doit rester stérile comme la nation. Donc, va être stérile physiquement comme signe de sa stérilité spirituelle. Car l'absence d'enfant était une malédiction. C'est quand on lit la Genèse et ses courses aux enfants entre les femmes de Jacob, il faut y penser. Genèse, chapitre 30, verset 1, 1 Samuel 1, 6 à 8, etc. Donc, nous sommes dans une société où la lignée était primordiale. Jérémie représente, de par son célibat, une malédiction qui pèse sur la nation d'Israël. Et par son exemple personnel, il doit mettre tous ses concitoyens en garde contre le sort qui les attend. Pas facile à faire. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce que qu'est-ce que j'ai constaté jusqu'à présent? J'ai beau vous inviter à poser des questions, on vient toujours, après le cours, me poser des questions très intéressantes et pertinentes. Mais vous êtes comme Jérémie, vous êtes timide, n'est-ce pas? Vous avez toujours peur que ce soit des questions bêtes, trop évidentes, mais rassurez-vous, hein, ce sont souvent les questions les plus bêtes qui sont les plus intéressantes. Parce que là, on découvre des aspects d'un problème auquel on n'avait jamais réfléchi. Hein. On trouve de bonnes réponses quand on pose question après question. Mais je n'entends rien toujours. Ah oui, ah, ah, oui. Oui. Non, 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 non. Oui, ben ça c'est très juste. Et que là, je me rends compte que je m'étais arrêté dans mon raisonnement. Je dis qu'il était. On avait suggéré que c'était symbolique. Et je dis, ça c'est vrai, c'était symbolique, mais c'était aussi pour des raisons pratiques. Vous avez tout à fait raison. Là, vous voyez que la question est très utile, parce que ça me rappelle que j'ai passé sur cette considération bien pratique que nous trouvons au moins deux fois dans le Nouveau Testament. Non ? Dans le discours eschatologique du Seigneur, quand il dit « malheur » aux femmes enceintes, l'orbe est de... est dans le même sens, dans quel texte? Oui, oui, et qu'est-ce qu'il dit? Oui, 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 vous pouvez vous exprimer comme ça. C'est assez fidèle à la pensée de l'apôtre, oui. Puis pourquoi? Oui, là, il en est question ailleurs, mais pas dans ce... Oui, non, non, vous avez raison. Il en est question dans 1 Corinthiens 7, c'est vrai. Mais Paul parle aussi de l'imminence du jugement. Paul était convaincu que le Seigneur pouvait revenir à tout instant. Est-ce qu'il avait raison? On dit que Paul attendait le retour du Seigneur de son vivant, mais il s'est trompé, dit certains. Pas évangélique. Hein? Alors, est-ce que Paul s'est trompé? Ah, ça, là, ça demande une bonne exégèse. Vous en parlerez au professeur de Nouveau Testament. Et comme ça, vous ne terminerez pas à midi et quart, mais à 1h15. Brûler, oui, c'est qu'il voit les deux côtés. Non, mais pour revenir à cette question de l'attente du retour du Seigneur, mais nous devons attendre le retour du Seigneur tout le temps, en permanence. Hein? Mais tout en sachant que le Seigneur peut revenir demain, comme il peut revenir dans 1000 ans. Mais alors, fixer des dates pour son retour, ça simplifie les choses dans un sens. Et que, mais ce monde, nous devons être prêts à tout instant, sachant que c'est pas sûr que ça arrive, mais nous devons être trouvés fidèles à chaque instant. Hein? Oui. Jérémie tremble, c'est qu'il ne croit pas à la force que Dieu va lui donner. Alors Dieu le livre à lui-même, en quelque sorte, pour qu'il tremble encore plus. Ah, mais que ça mérite toute une étude. Et puis, pour beaucoup de textes, dans certains cas, nous avons assez d'éléments pour nous faire une idée de la manière dont Dieu a communiqué avec certains hommes. Pour Moïse, c'est très clair. Mais Dieu parlait à Moïse comme un homme parle à son ami. Et vous voyez, même une représentation de Dieu en face de lui, c'était presque matériel, presque. Mais dans Nombre 12, nous lisons par la même occasion que pour la plupart des prophètes, comment ont-ils reçu leur message? Oui, par des songes, et puis dans le calme de la nuit. Là, vous avez les visions nocturnes de Zacharie, donc les 6 premiers chapitres du livre de Zacharie. Mais dans d'autres cas, nous ignorons ce qui s'est passé. Et on pourrait dire, et ça vaut mieux, parce que si nous savions exactement comment Dieu avait communiqué, et il y aurait de faux prophètes qui imiteraient tout à la perfection, n'est-ce pas?
Voir aussi comme Samuel, quand Dieu l'a
Oui, mais il y a tout, ben là, on peut faire toute une étude, hein, ben, de la question, oui, oui. Mm-hmm. Oui, oui, ben, c'est, il y avait une voix audible dans le cas de Samuel, c'est certain. Hein? Bien. Ah oui.
Qui était fidèle, mais tout de même avec un ministère aussi difficile, il aurait été bon qu'ils soient un peu plus entourés. Et là, je me demande, ou plutôt je pose la question, quand on pense à Élie et à Élisée en particulier, il y avait ce que le texte appelle des écoles de prophètes, qui semblaient être donc une sorte d'entourage qui l'a accompagné. Qu'est-ce qu'il en est à ce moment-là, au moment de Jérémie? Est-ce que ce genre de choses existait encore?
Non, pas les écoles de prophètes qui n'existaient plus. Ben évidemment, il y a tout un débat sur la nature de ces écoles de prophètes. Et puis, c'est comme toujours, ben, quand on n'est pas sûr ben, d'avoir toutes les réponses, on en parle sans fin. Quand il y a une solution simple, on n'en parle plus. C'est que quand on évoque une question sans ben, jamais épuiser le débat, c'est qu'on n'a pas vraiment de réponse. Oui.
Le chapitre
1er,
verset
19. Oui.
Il y a une question d'assurance.
Pardon, il y a
une question d'assurance hein, pour le chapitre 1er, verset 19.
Oui.
Il défend la guerre, mais il ne défend pas. Je suis avec toi pour.
Oui. Oui. Oui, ben c'est ça. Ben, c'est ce que Jérémie devait croire. Bien. Mais je voulais peut-être tout juste revenir un instant à Élie et Élisée, et que bon, et bon, il y a voix des écoles de prophètes, Élie est resté un solitaire, et puis un solitaire plus ou moins volontaire. Au moins, je serais tenté de décrire Élie comme un asocial, et certainement un STF. Ce qui n'est nullement le cas d'Élisée. Il est difficile de se représenter deux hommes aussi différents qu'Élie et Élisée. Et pourtant, ils ont bien collaboré ensemble. Et pourquoi? Parce qu'ils avaient reçu la même mission de la part de Dieu. Bien. Bien. Alors, il y a d'autres questions avant qu'on passe à la troisième étude? Bon. Alors, Jérémie, pédagogue. Bien. Ah bon, ah bon pas. Oui, 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 je vous écoute.
C'est à propos du chapitre 23, verset 26. Comment comprendre?
Mais quel verset, pardon? 28, oui. Qu'a de commun la paille avec le froment? Ben, la paille, c'est ce qui est improductif, qui ne vaut rien. Donc, en d'autres termes, ben, ben, je pense qu'il compare ici ben, les faux prophètes à la paille. Et le froment, ce sont les vrais. Donc, il est question de vrais et de faux prophètes dans ce texte. Comment reconnaître hein, les faux prophètes? C'est la paille, des hommes sans valeur. Hein? Ah oui, mais attention, ici, il est bien question de faux prophètes. Oui. Et que quand Jérémie dit aux prophètes, verset 9, je lis dans la colombe un titre contre les faux prophètes et je pense que c'est la bonne interprétation. Donc Jérémie parle tout simplement de prophètes, mais il y a un jugement de valeur qui s'impose. Il faut savoir distinguer entre les vrais et les faux. Hein? Je pense que nous avons ici une dénonciation des faux. Hein? Alors Jérémie, pédagogue. Alors, tout premier point, c'est que Jérémie est un homme direct. C'est le moins qu'on puisse dire. Il condamne sans embâge une vision superstitieuse qui voyait le temple comme inviolable et une protection absolue pour le peuple, nous l'avons déjà dit. Et il répète avec, en imitant ceux qui dénoncent le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Oui, nous avons vu ça hier matin, n'est-ce pas? Donc, chapitre 7, verset 4. Et il annonce que le temple de Jérusalem connaîtra le même sort que le sanctuaire de Silo. Et assez intéressant de savoir que dans ces deux prédications de Jérémie contre le temple, au chapitre 7, et au l'usage fait du temple, chapitre 7 et chapitre 26, sans ces textes-là, nous aurions un seul verset qui nous parlerait du sort de Silo. Ça rappelle le psaume 78, verset 60, je crois. Donc, et Jérémie est très direct. Ce que les Israélites avaient de plus précieux, ce qui semblait garantir leur sécurité, était voué à la destruction. Il le dit directement, brutalement, pourrait-on dire. Il ne cherche nullement à ménager ses auditeurs, mais il met les points sur les i. Donc, un prédicateur direct. Donc, ça, c'est un aspect de la prédication, parce que ce n'est pas tout. On peut être à la fois direct, brutal à l'occasion, mais on peut aussi être très fin. Et puis ça peut être, il faut choisir le moment. Il y a un temps pour toute chose, n'est-ce pas? Donc Jérémie sait également réfléchir pour faire passer le mieux possible son message. Ce message si désagréable pour ses auditeurs. Ce qui m'amène à mon deuxième point, qui voit en Jérémie un orateur sachant capter l'attention de son auditoire par l'usage de la rhétorique. La rhétorique étant le mode d'expression retenu pour faire le mieux passer le message destiné à mieux convaincre les auditeurs. Alors, les articles consacrés à Jérémie dans le dictionnaire biblique de ABD, que vous avez dans la biographie. Donc, ces articles énumèrent un certain nombre de chiasmes dans le livre de Jérémie, assez peu étudié, parce que pendant si longtemps, on a si souvent disséqué le livre de Jérémie pour relever les incohérences de sa structure, qu'on n'a pas cherché des structures cohérentes. On a cherché autre chose. Mais certains se sont mis à rechercher ce qu'on trouve ailleurs dans les textes bibliques et avec un certain succès. J'ai une liste quelque part avec quelques exemples de ça si ça intéresse quelqu'un. Ou vous pouvez trouver ça même à la bibliothèque ici. Oui, ça vaut mieux. Donc, dans ABD, c'est dans la bibliographie. Un instant, c'était quel volume? D'après, voyons. Oui, donc les introductions en anglais, Lundblom. Donc, Anke Bible Dictionary, volume 3. Donc, vous avez les références là. Et puis, c'est la deux, non, c'est la première partie, page, entre pages 690, 697, que vous trouverez des exemples très intéressants. Donc, si vous voulez approfondir la question. Mais avant d'examiner toute la panoplie que nous trouvons dans le livre de Jérémie, des moyens de persuasion ou de mémorisation de son message, destinés à... Et il faut souligner donc tout d'abord la primauté de la parole. Donc la parole n'est jamais détrônée chez lui, mais qui est rendue vivante, saisissante même, par des méthodes audiovisuelles. Donc il y a deux choses qu'il faut retenir. La première place accordée à la parole elle-même, mais qui est parfois supplémentée par d'autres moyens. Jérémie va utiliser des objets, va se livrer à des actes. Alors, quelle est l'inspiration de ces actes symboliques qui accompagnent sa prédication? Je dirais que l'inspiration première vient de sa vocation. Est-ce que Dieu a employé l'audiovisuel? Oui ou non? Ben oui, audio, il a parlé à Jérémie, visuel, il lui a montré, bon, il n'y avait pas de télé, mais qu'est-ce que Dieu a montré au prophète, hein? Comment? Non, qu'est-ce qu'il a montré en premier lieu au chapitre? Voilà, donc une branche d'amandier. Et puis ensuite, comment? Voilà, un chaudron, une marmite, peu importe. Bien. Donc la branche d'amandier. Pourquoi une branche d'amandier? Parce que c'était un jeu de mots. Sur la racine chacade, ça ne vous dit pas grand-chose, mais si à Claudine peut-être, tu connais chacade? Ah bon, oui. Ce n'est pas un des premiers mots qu'on apprend en hébreu, c'est vrai. Alors, à partir de la même racine, donc, ben, c'est que là, je ne sais pas si vous avez déjà étudié un peu l'hébreu, mais dans les langues sémitiques, tout part des racines, donc le sens fondamental, une conception fondamentale est liée à trois consonnes. Et on peut faire toutes sortes de variantes à partir de ces trois consonnes, donc de ces racines trilittérales, comme on dit. Donc, à partir de la même racine, che, que, de. Ah oui, c'est bête. Oui, oui.
Est-ce que tu voulais, Claudine? Pour les autres,
donc à partir de cette racine, vous avez chakoud, qui veut dire littéralement qui se réveille au printemps. Et c'est la branche d'amandier qui fleurit en premier lieu, le primevère. Parce que Dieu, et puis suivant le sens fondamental du verbe, Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir sans tarder. Donc Dieu avait utilisé un moyen visuel pour son prophète. Donc Jérémie se voit confier un message qui va s'accomplir assez rapidement. Mais assez rapidement, vous remarquez, ça va durer combien de temps en tout? Ah non, je pense au ministère de Jérémie, 40 ans. avant la grande catastrophe. Mais qu'est-ce que 40 ans aux yeux de Dieu? Comment? Qu'est-ce que 1000 ans aux yeux de Dieu? Oui, bien. Pas littéralement, bien sûr. Oui, oui. Bien. Et puis, pour ce qui concerne la marmite ou le chaudron du premier chapitre, alors là, qu'est-ce qui se passe exactement? C'est une marmite qui bouillonne et qui est penchée d'un certain côté vers le sud. Et ça veut dire que cette eau bouillante soit se déverser vers le sud pour annoncer une invasion venant du nord. C'est-à-dire que les les Babyloniens viendront du nord pour envahir le pays au sud pour eux à la fin de leur parcours. Donc Jérémie est initié à cette méthode par Dieu lui-même. En plus, il y a son vécu personnel. Il est issu d'un milieu relativement populaire, comme nous l'avons déjà vu, avec ses dictons. Vous connaissez les dictons des milieux populaires? Et nous trouvons un de ces dictons-là au chapitre 31, verset 29. Quelqu'un saurait-il de quoi il est question? Les pères, les raisins trouvèrent, oui. Et voilà, en d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les enfants doivent payer les fautes de leurs parents. Comment? Oui, 31-29. Donc, chapitre 31-29. Ézéchiel va reprendre le même dicton au chapitre 18. Pardon? Ah oui, oui, oui. Oui, tout à fait. Oui. Et puis, ensuite, donc vous avez les dictons. Vous avez les paraboles, comme avec le panier de figues du chapitre 24. Et puis, vous avez les chants. Attention, C-H-A-N-T-S. Les chants qu'on chante. Au chapitre 48, verset 45. Dans le cas de Moab, mais là, Jérémie s'inspire également de l'Écriture. Donc, vous avez toute une panoplie du milieu populaire, dictons, paraboles et chants. Et on voit bien l'influence de son milieu rural avec des métaphores tirées de la vie campagnarde, avec les Babylone comparé à un temps. T-A-O-N, et l'Égypte, un serpent. Au chapitre 46, versets 20 et 22. Ou pour décrire le jugement de Babylone, au chapitre 51, verset 33, vous avez la métaphore d'une ère foulée avant la moisson. Et on peut multiplier les exemples. Le contenu de Jérémie à cet égard est tellement riche qu'il est presque impossible de trouver une version, une traduction de livre de Jérémie qui met en valeur toutes ces métaphores et que parfois les traducteurs ne les ont même pas remarquées. C'est que c'est bon, on peut dire que c'est la recherche de toute une vie d'identifier toutes ces métaphores. Je voudrais vous donner, j'avais préparé deux, mais le temps manque, je veux me contenter d'un seul échantillon que je trouve très beau de cet usage des métaphores chez Jérémie, c'est au chapitre 48, qui n'est pas le plus connu de son livre. C'est le jugement sur Moab que j'ai cité tout à l'heure. Alors, Moab était un pays renommé pour ses vignes, Boujolais, Bordelais, tout cela. Et Jérémie va jouer à fond sur cette réputation du pays de Moab. Ici, vous regardez le chapitre 48. Ça commence au verset 11. Alors, je lis dans la colombe, « Moab était tranquille dans sa jeunesse, il reposait sur sa lie. » Alors, vous voyez tout de suite le rôle de la lie, mais c'est beaucoup plus fin que vous ne pensez. Mais je crois que on a compris Jérémie à partir d'une découverte archéologique. C'était un label de qualité pour un vin qui était resté en cuve pendant des années, qui était resté sur sa lie. Donc c'était un vin vieux et forcément bon à ce moment-là, un vin de qualité. Et ça, Jérémie a employé le terme, vous prenez comme nous, on peut citer un slogan publicitaire aujourd'hui. C'est ce que Jérémie fait ici. Donc, mais ce label de qualité n'en est pas un, puisque Moab, qui est resté sur sa lie, n'est pas, en fin de compte, n'a pas conservé sa qualité. C'est que les Moabites n'avaient pas été jugés par Dieu, n'avaient pas été secoués par Dieu, ce fait qu'ils sont restés comme ils étaient auparavant, ça veut dire mauvais. Donc, un label de qualité qui n'en est pas un. Au contraire, au verset 12, c'est que Dieu voit que c'est un label de méchanceté et il se charge du transvasement indispensable pour que ce vin soit amélioré. Mais Dieu va le faire sans ménagement. Il va envoyer des hommes peu délicats, soldatesques, qui, au lieu de transvaser ce vin délicatement, va tout simplement ramasser les cruches et les casser les unes contre les autres. Donc, il y aura de la casse. Vous voyez comment Jérémie annonce le jugement. Au verset 26, l'orgueilleux va montrer sa vraie nature. L'ivrogne, un ivrogne, c'est pas celle d'un ivrogne qui se vautre au milieu de ses vomissures. C'est une image qui avait déjà été utilisée par Isaïe au chapitre 28. Jérémie n'hésite pas à reprendre la même image ici pour Moab. Et finalement, au verset 32 et 33, c'était là une métaphore très courante chez les prophètes, pour annoncer le jugement, on dit qu'il n'y aura plus les cris des vendangeurs, il n'y aura plus de cris de joie lors des vendanges, mais le cri de joie sera remplacé par des cris de guerre avec les envahisseurs et le cri des Moabites lors des vendanges se transforme, les cris vont se transformer en cris de douleur. Verset 34. Vous voyez que tout au long du discours, Jérémie revient sur cette idée sur la renommée des Moabites comme producteurs de vin. Et on peut multiplier les exemples Mais ça demande une démonstration assez longue dans certains cas, mais c'est tout juste pour vous donner une idée de que Jérémie, un homme direct, ferme au point d'être brutal, c'est aussi un homme qui sait être très fin, qui sait réfléchir. On n'est pas obligé de choisir entre les deux. On peut allier les deux approches. Bien. C'est l'heure. Oh, déjà, oh là là. Bien. Ah, vous avez combien de retard ce matin? Non, je ne veux pas vous infliger ça. Bien. Bon, alors nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'est ça? Bien.